Midi 31, c'est des retrouvailles de plusieurs années. Il était mon collaborateur dans mon ancienne vie radio. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup pour ses expertises et ses commentaires. Puis, on a resté en contact sur Messenger où on s'envoyait quelques trucs une fois de temps en temps. Pas toujours intelligent, mais je le retrouve aujourd'hui avec un grand plaisir. C'est un chroniqueur politique, c'est un ex-chef de cabinet au municipal. Son nom, c'est David Chabot, ex-homme d'affaires. T'es-tu encore en affaires ou...
Pas pour l'instant.
Pas pour l'instant.
Pas à mon compte à moi, ouais. En fait.
Un jour, tu penses-tu y retourner dans... T'avais un restaurant à l'époque?
Ouais, mais pas dans la restauration, ça c'est sûr, là, mais la vie c'est long, on sait pas qu'est-ce qui nous attend.
Ça brûle trop la restauration.
Hey! T'avais un resto déjeuner. Hein?
Ouais, c'est ça. Ouais. La pénurie de main-d'œuvre, ça m'a tué raide.
Pas vrai? Ouais. En quelle année?
J'ai fait ça de 2008 à 2018.
Okay, avant la pandémie.
2008, manquait de plongeurs, t'avais des cuisiniers. 2018, t'avais plus personne, tu sais. Fait que là, t'es dans la cuisine.
Je ris, mais je ris pas, là.
Ben, après coup, c'est drôle.
Mais t'as des clients, tu sais, plein la salle.
C'est ça, ça fait affaire à la porte, puis tout. Puis là, tu sais, t'es déjà dans la cuisine, il t'en manque deux de plus. Là, tu fais quoi? Je peux pas nous séparer, du coup.
Ouais, puis tu sais, pour faire des déjeuners, je veux dire, on n'a pas le choix, c'est le matin. Tu ouvrais à quoi? À 6 heures?
Ouais.
Fait que les gens t'appelaient à 4 heures pour dire, hey, je suis malade, je peux pas rentrer. Ou ils rentraient pas, tout simplement, j'imagine.
Ah, mais je fais, tu sais, je veux pas dire ça pour diminuer, là, mais je fais du stress post-traumatique de restauration. Là,
évidemment. T'es sérieux?
C'est pas la même affaire que les gars de l'armée, puis tout, c'est pas ça. Mais genre, il y a des sonneries de téléphone que j'entends que ça me trigger. Parce que c'est ça que je recevais comme appel, tu sais, ouais. Dans la nuit, puis ça sonne, puis cette sonnerie-là, ça voulait dire que ça allait mal.
Tu dois pas être le seul, ça. Honnêtement, là, tu dois faire des cauchemars encore, des affaires de même. T'sais, on fait encore des cauchemars, qu'on rate un examen, ou finalement, on se rappelle plus la matière, mais ça vient de nos années d'études. Yannick, peut-être un peu moins. Mais, mais toi, en restauration, ça te revient-tu des cauchemars du type, dont t'es dans le jus, il n'y a personne?
Ben, mais quand je vais dans un restaurant, je me sens un peu stressé pareil, même si c'est pas le mien. Okay. Sauf que, tu sais, des fois, je suis comme la fin de semaine, je relaxe plus, mais je suis comme, je suis normalement stressé. C'est à cause de ça. Parce que j'étais habitué que la fin de semaine, ça roulait, tu sais.
Ouais.
Fait que, mais regarde.
Mais t'as toujours travaillé fort, même quand t'étais en politique, t'étais chef de cabinet, tu travaillais extrêmement fort aussi. Puis là, ben, t'as une autre vie, puis tu viens faire ton tour en studio sur les ondes de Boulevard 101. Donc, bienvenue, ouais. David Chabot. Aujourd'hui débute l'étude sur le projet de loi 69, qui est une loi qui assure la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives. C'était supposé d'être Pierre Fitzgibbon qui se présentait. Finalement, Pierre Fitzgibbon s'est fait démissionner. C'est la nouvelle ministre qui rentre en poste qui va présenter ça. Pour les gens qui ne suivent pas ce que c'est que le projet de loi 69, c'est quoi exactement?
Bien, en gros, c'est de revoir le rôle de Hydro-Québec, mais aussi plein d'autres leviers comme la régie de l'énergie et tout ça. Là. Donc, sans tomber dans le détail technique vraiment à plat, ce qu'on veut finalement, c'est de dire « OK, Hydro-Québec, là, c'est quoi le futur là-dedans? On veut-tu faire des barrages? On peut faire des barrages? Comment qu'on investit? » Fait que, ils vont pas dans le budgétaire pour ce projet de loi-là, mais c'est se donner ces moyens-là, ouais. Pour aller de l'avant puis passer à Hydro-Québec 2.0, si tu veux.
Puis est-ce qu'il fallait le faire, ça?
Bien, c'est ça la question. Puis je voulais vous poser la question à vous deux. Le rôle pour toi d'Hydro-Québec dans la vie, c'est quoi?
Ben moi, je veux que ce soit une entreprise qui est visionnaire, qui regarde un peu ça va être quoi la population du Québec dans 10, dans 15, dans 20 ans. Est-ce qu'on a les infrastructures nécessaires? Est-ce qu'avec les barrages qu'on a, les éoliennes, on est correct ou on faudrait peut-être mettre plus je sais pas, un peu comme dans l'Ouest canadien. J'en parlais hier avec Éric Duhaime. On a à peu près 19 réacteurs nucléaires qui existent encore, qui produisent de l'électricité. Au Québec, on nous dit, ben non, il n'y a plus d'acceptabilité sociale. Là, mais en même temps, quand tu es un peu connaisseur puis tu suis un peu le dossier, aux États-Unis, c'est full nucléaire. Ailleurs dans le monde, c'est full nucléaire. Puis on nous dit que le nouveau nucléaire est la façon la plus efficace et la façon la plus environnementale de créer de l'énergie. Fait que je me dis, peut-être qu'Hydro-Québec pourrait envisager ce projet-là dans 10, dans 15, dans 20 ans parce que s'ils veulent leur objectif 2035, plus aucun véhicule à essence sur le territoire, va falloir qu'ils fournissent de l'énergie comme pas possible. Je m'attends à ce qu'ils fassent ce genre de job-là, qu'ils planifient. Mmh.
Mais là, tu me donnes des moyens pour atteindre ça, tu sais, ouais. Mais stratégiquement, on fait quoi avec Hydro-Québec? On veut-tu... toi, Pascal, tu vois ça comment? Mettons, tu sais, le rôle,
c'est-tu... À la base, là, à la ouais. Toute base,
c'est quoi, l'utilité
le rôle, ouais. Pour moi, Hydro-Québec, c'est d'approvisionner la province en électricité puis être capable d'avoir des surplus de ça et non qu'on soit capable de demander aux citoyens de partir de la vaisselle le soir, la nuit, là. C'est la toute base, la simplicité, c'est que tout le monde soit capable de se chauffer et de s'éclairer. Et par la suite... Je pensais qu'on était rendu là il y a plusieurs années, d'y aller avec peut-être quelque chose de plutôt fédéral et plutôt après mondial, parce qu'on avait une ressource extraordinaire développée depuis plusieurs années et on a été chauvin, on a été aussi gêné, puis on a été non seulement en manque de proactivité, mais je dirais en manque de bonne gestion par rapport à quelque chose qui était entre nos mains pour faire beaucoup d'argent.
Mm-hmm.
Tu sais, au-delà de se chauffer, et de s'éclairer. Je pensais vraiment qu'on était capable maintenant de faire de l'argent avec ça puis de nourrir financièrement.
Ouais. On est passé des surplus d'Hydro-Québec à un déficit énergétique. Là.
Ouais, c'est ça, c'est passé. Mais la question est super bonne pour la planification, sauf que je me dis, est-ce qu'on veut l'électricité pas chère? Est-ce qu'on veut du développement économique? Est-ce qu'on veut décarboner l'économie de l'Amérique du Nord au complet? Est-ce qu'on veut développer des nouvelles technologies puis les exporter? T'sais? C'est toutes des choses qu'on peut faire avec Hydro-Québec, sauf que pour moi, c'est pas clair c'est quoi le plan de match.
On n'a même pas la base. Selon moi, il y a encore des défaillances au niveau de juste éclairer puis chauffer. Ouais,
la fiabilité du réseau.
Les habitants, là.
Ouais, exact. Donc là, ce plan de match-là, je le connais pas. Fait que quand je vois en commission parlementaire puis je les écoute parler, puis là, encore c'est bien ce matin, juste avant de rentrer en onde, j'ai un pop-up de la presse qui dit « Ah, on a donné trop d'énergie aux entreprises avec Fitzgibbon. » Puis moi, je ferai pas le procès de Fitzgibbon parce que je trouve qu'il a brassé des idées. Puis bon, en tout cas, il est parti, mais... C'est ça l'affaire, c'est que là, finalement, on s'en va où avec ça? Là? Parce qu'on se donne des moyens pour mettre 185 milliards dans les nouveaux barrages. OK, mais on va faire quoi avec cette énergie-là? Est-ce que nous autres, c'est important, comme le premier ministre dit, qu'on se limite à 3% d'augmentation annuellement? Ou on se dit, bien, on va suivre l'inflation ou le marché, whatever, on va se créer de la marge de manœuvre, puis on va amener des entreprises? Ou encore, on se dit, bien, on va faire des surplus, puis on va exporter ailleurs pour décarboner? Je l'ai pas, cette réponse-là. Puis je trouve que c'est un problème qu'on a avec nos grands projets de société, si tu veux, là, parce que là, je veux pas mélanger plein d'affaires, mais tu sais, il y a plein de projets d'infrastructure qui ont un peu dérapé, puis l'acceptabilité sociale, c'est pas juste de dire que je fais une belle présentation au PowerPoint, puis je vous présente ça, puis que c'est beau, tu sais. Faut quand même que les gens comprennent c'est quoi le plan de match.
Ouais.
Puis peut-être c'est moi qui est coco, remarque, là, puis peut-être que tout le monde le comprend, le plan de match au Québec, mais je le sens pas. Fait que là, on va avancer, on va se donner des moyens, on va faire des choses, tu sais, assez importantes économiquement. Là, on va s'endetter plusieurs dizaines, voire centaines de milliards. Puis je sais pas où on s'en va avec ça.
Mais tu penses-tu que les Québécois, en général, se posent ce type de questions-là? Peut-être que c'est moi qui est trop simple, mais j'ai l'impression que mon voisin, lui, tout ce qu'il veut, c'est quand il allume la lumière, que la lumière allume. Ouais. Il veut que quand il a besoin d'électricité, parce que c'est l'hiver, il fait moins 20, il veut que quand il allume le chauffage, pas se faire écœurer par le politicien qui est supposé faire sa job, lui, de son bord.
Mais en fait, c'est qu'on devrait pas avoir à se poser ces questions-là.
Exact.
Mais si on se pose ces questions-là, et que c'est la seule question, par contre, c'est un peu simplet. Parce que d'avoir une aussi grosse machine comme celle-là qui pourrait littéralement nous faire ressortir des autres mondialement puis devenir une puissance en quelque chose, puis s'arrêter juste à est-ce qu'on est capable de s'éclairer puis se chauffer, c'est simplet. Mais dans la mesure où on n'est pas capable d'assurer ça, peut-être qu'on revient juste aux questions un petit peu plus de base.
Puis David, tu sais, les politiciens veulent toujours nous faire sentir coupables quand ils nous parlent de l'électricité au Québec en arrivant avec des statistiques. Oui, mais les Québécois consomment énormément d'électricité. OK, dans les statistiques, mais as-tu vu le climat qu'on a comparativement à ce qu'il y a dans l'Ouest? Effectivement, nous autres, il fait frette. On a du moins 20, moins 25, moins 30 des fois, de moins en moins, mais ça arrive quand même. On a besoin d'électricité, puis je connais pas grand monde là, qui part des lavages pour rien tout le temps.
Bien, je pense pas qu'on a une culture quand même de préserver l'énergie pareil au Québec. Non. Honnêtement, je pense qu'on est un peu laxiste là-dessus.
Je suis peut-être un peu gratteux, là, mais c'est moi qui fais la tournée de lumière chez nous.
Quand toi, tu payes ton électricité, il y en a plein qui sont à loyer au brut, là. Avec l'électricité inclus, puis ça
existe. Tu voyages un peu en Europe et autres, tu te rends compte à quel point il y en a qui sont plus avancés sur le raisonnement de ce qu'il y a en arrière. Puis là, on ne parle pas de pays africains et autres, ils n'ont même pas ces bases-là, mais effectivement, la conscience sociale, économique et d'éléments, en fait, que nous, on a comme ressources, est moindre. Là. Mm. On a un peu tout cul dans le bec sans se poser de questions.
C'est pour ça que la question de Fitzgibbon est importante, de dire « on paye-tu pas assez cher notre électricité? » Puis là, je veux dire, moi, je suis pas un fan des taxes, là, je pense que tu me connais, là, mais c'est un service de consommation, c'est drôle à dire. On paye-tu pas assez cher? Ça finit qu'on ne fait pas attention, fait qu'on n'a pas de surplus pour investir ailleurs.
Mais ça, c'est prendre les gens pour un peu des cons, selon moi, parce que la seule façon qu'on va leur faire comprendre l'importance d'avoir une consommation d'électricité plus raisonnable et consciente en 2024, ça va de les faire payer plus cher. Personne qui apprend de ça. Au contraire, ça fait juste fâcher le monde. Moi, je pense que ça, c'est prendre par contre les citoyens pour des êtres stupides, là, parce que t'as pas plus expliqué, t'as pas plus conscientisé, t'as pas présenté des PowerPoint, comme tu disais tantôt, mais qui sont efficaces dans des points de presse en disant « Hey, on va vous expliquer ». Parce qu'on veut pas vous faire payer plus cher. On veut pas que ça soit coercitif comme façon de faire avec Hydro-Québec. Mais va falloir que vous compreniez, par exemple. Parce qu'on est dans un moment où il faut se poser des questions sur notre consommation.
On parlait avec Pascal Paradis hier, le député du PQ, puis on a justement parlé de l'électricité au Québec, comme quoi, à ses yeux, à lui, c'était pas cher. Ben, OK, c'est correct, mais le Québec est un enfer fiscal. Tout ce qui nous reste en tant que résident, là, c'est d'avoir de l'électricité à bon prix.
Ouais.
Le jour où ils augmenteront ça, là, Parce que là, à un moment donné, le niveau de taxe qui est autour de nous est juste hallucinant. Il va nous rester quoi? Ça va être quoi l'avantage de rester ici, David? C'est un enfer fiscal. Tu sais, on a toujours dénoncé les paradis fiscaux, mais si les paradis fiscaux existent parce qu'il y a des enfers fiscaux, puis actuellement, le Québécois, ben, il est dans un enfer fiscal. C'est lui qui est le plus surtaxé. Donc, je comprends toutes les demandes que les citoyens peuvent faire en disant, ben là, il faut faire attention. Puis, c'est vrai qu'ailleurs, ils consomment l'électricité d'une façon différente parce qu'il y a du délestage, soit dit en passant, dans certains endroits dans le monde. Ils délaissent par certains districts. Fait que quand tu veux te laver, finalement, ben, ils ont décidé que toi, tu n'allais pas avoir d'électricité pendant deux heures. Ouais. Tu deviens un peu plus conscient, ouais, peut-être. Ça. On ne veut pas que ça arrive ici. Mais pour la plupart, on fait attention à notre électricité. Puis c'est à nous autres, sacrifice. T'sais. Tu payais-tu plus cher dans ton restaurant quand tu achetais ta nourriture, toi?
Plus cher que ça.
Quand tu avais ton propre restaurant, quand tu mangeais, là, tu payais-tu...
Chez nous,
Tu payais-tu au COS?
Ben,
tu payais ce que les clients payaient. C'était ton restaurant, toi. Hydro-Québec, ça nous appartient. C'est devenu, malheureusement, une vache à lait du gouvernement. Puis le gouvernement a toujours besoin de plus d'argent. Donc là, ils vont augmenter encore les tarifs, malheureusement. Mais le Québécois va vouloir juste sacrer son camp parce qu'il va dire, moi, là, chaque fois que je regarde ma paye, c'était un employé, là, chaque fois que je regarde ma paye, il m'enlève la moitié. Ben oui, il y a de l'argent qui va arriver plus tard dans mes poches. Mais pour l'instant, c'est la moitié de ma paye qui est amputée. Puis là, ben, tout coûte plus cher. Puis en plus, on taxe les taxes au Québec. Écoute, c'est hallucinant. On peut-tu leur donner un break aux Québécois pour ce qui est de l'électricité?
Mais tu réponds un peu à ma question initiale, dans le fond. T'sais, parce que est-ce que c'est ça le levier qu'on veut faire d'Hydro-Québec, de se garder l'électricité à pas cher pour longtemps? Parce qu'on se dit, regarde, au moins, on a ce confort-là comme consommateur. Là, tu comprends? Fait que j'aimerais ça qu'on se pose la question. Puis, Pascal, ce que tu dis, c'est intéressant parce que je reviens pas sur la pandémie parce que c'est une période de merde, mais tu sais, excusez-moi, j'ai dit un mauvais mot en nom.
C'est pas cette période, t'as raison.
C'est-tu légal ici?
T'es chanceux, je suis là.
OK, c'est bon. Par contraste, mais ce qui faisait de bien au début de la pandémie, c'était des points de presse qui expliquaient des choses. Ouais. On se comprend.
Là, avec des experts à côté, ils répondaient aux questions.
Puis là, on se comprend, il ne faut pas ça à chaque semaine là, ou à chaque jour dans le temps. Là, mais tu sais, un genre de State of the Union du premier ministre du Québec et du Canada, là, comme il y a aux États-Unis, là, c'est un discours très politique, mais pourquoi pas, il y aurait un genre de rendez-vous mensuel, trois mois,
on
à chaque année.
On n'a jamais, jamais ça. Les vieux politiciens le faisaient. Les vieux politiciens écrivaient même des livres, des ouvrages avec des experts pour essayer d'aider. Là, vous me direz que je suis un peu sauté, mais moi, j'en lis des biographies encore de politiciens actuels. Puis souvent, ça va être un petit peu plus impotent, les scandales. J'adore ça, c'est vraiment le fun. Mais une fois que tu as épluché la commission Charbonneau, qu'est-ce qui te reste quand même sur l'avenir du Québec? Où est-ce que tu t'en vas? Au moment où tu veux avoir ce type de livre-là, puis je vais parler à certaines personnes, ça va être extrêmement niché, mais tu vas dans le septuarion, tu sais, du côté édition du livre. Tu n'es pas, mettons, dans les éditions les plus consultées et autres. Pourquoi est-ce que ça ne devient pas quelque chose du type? Au lieu de faire un podcast, comme on a vu avec François Legault puis Régine Laurent, quoique la conversation était super intéressante, surprenamment, ça a cessé. Peut-être que ce n'était pas la place à François Legault. Puis peut-être qu'il n'aimait pas ce qu'il entendait aussi parce que ça ne faisait pas tout le temps un beau bas résil au gouvernement. Mais un genre de communication de ce type-là.
Mais je l'aimais, ce podcast-là, pour vrai. J'écoutais ça en passant à balayeuse, puis tu sais, c'était le fun, pour vrai. T'sais, justement, t'as le premier ministre, c'est lui qui est censé runner le bateau, là. Puis il parle avec quelqu'un qui a un sujet particulier à amener, puis là, il y a un débat là-dessus, puis c'est comme un micro-débat de société, tu vois. Puis là, tu vois comment le premier ministre s'est réfléchi, tu sais. On n'en fait pas assez de ça. C'est des conférences
d'adhères ou t'adhères pas, mais il y avait quand même des explications sur le plancher des vaches avec des gens qui le sont.
Puis tu sais, une conférence de presse où tout est léché, puis un beau communiqué de presse avec des citations préfaites.
Avec des gens qui veulent être réélus.
Ben c'est ça. Puis là, ben il y a ça aussi. Il faut que tu sois élu aux 4 ans avec les grands projets de société à expliquer ta vision, puis tout. Ben là, finalement, on perd pas notre temps parce que moi, j'ai juste 4 ans, fait que il y a de quoi comme un peu de vicié là-dedans. Là. Puis je veux dire, j'invente rien. Là. On se comprend que je suis pas en train d'apprendre rien à personne. Sauf que je trouve que le moment actuel du projet de loi de la loi 69, qui est un chiffre choisi au hasard, j'imagine, c'est un bon moment pour réfléchir à ça. Mais là, on s'en va en commission parlementaire. Puis ça va parler du projet de loi, puis de l'article de loi. Puis là, ben ici, moi, je voudrais avoir un peu plus de ci. Puis là, ben, un matin, tu sais, je suis abonné à tous les communiqués de presse du monde. Là. Puis là, tu as tous les grands lobbies, puis les groupes d'intérêt qui. Moi, la loi 69, je veux ça. Moi, je dis que je peux faire ça là-dedans. Moi, je peux contribuer de cette façon-là. Fait que là, tout le monde va pitcher son intérêt dans le truc. Mais finalement, nous autres, comme citoyens, c'est quoi la réflexion qu'on a à dire? J'aimerais ça l'avoir.
Pas grand-chose. Hey, je voulais te poser une question, toi qui étais en politique longtemps. L'acceptabilité sociale, c'est-tu si important que ça pour nos politiciens?
Ben c'est vital. Sauf que, tu sais, il y a tout le temps un peu l'enjeu de... Ouais, mais il y a des projets de société qui passeront jamais. Ouais, mais non. Parce que, tu sais, si t'es... T'sais, ben, on va se parler du tramway. Là, je veux pas... politiser ça en parlant du tramway, on se comprend, parce que c'est un dossier quand même qui vire dans tous les sens, sauf que à la base, j'étais à la conférence de presse quand Labombe puis Couillard ont annoncé le projet. Puis j'étais allé là avec le maire à l'époque où j'étais, puis on s'est fait apprendre le projet. T'sais, on l'a appris en même temps que tout le monde, finalement. Puis je me dis, ben ça n'a pas de bon sens qu'un projet qui va changer la ville comme ça, tu l'apprends d'un bout à l'autre comme ça. Puis après ça, il y a eu 8 moutures différentes. Mais ça finit que tu m'apprends ce qui va changer ma vie comme une annonce d'un nouveau film à Hollywood.
Mm.
Puis ça, t'sais, ça marche pas comme ça. Fait que, t'sais, c'est un peu de la... En tout cas, il y a comme plein de mouvements d'acceptabilité sociale, là, mais il y a de la co-création qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu amènes des idées. Il faut que tu dises, toi, tu vois ça comment? C'est quoi? Un peu comme les questions que je vous ai posées tantôt, ouais. Finalement. Là, c'était très macro. Mais là, tu ramènes ça dans un projet, puis il faut que tu fasses des assemblées de cuisine. Ouais,
parce
que
avec tous et chacun, puis moi, je trouve quand même qu'il y a quelque chose de triste dans ça, puis je reviens toujours à... Puis c'est peut-être cynique de ma part, mais... Moi, mes parents, c'est pas des gens qui ont énormément d'études. Ils nous ont poussés parce qu'ils n'en ont pas fait. Fait que c'était... Tu sais, la pression de performance dans ma famille, elle était là tous les jours. Mais pour apprendre, pour pousser à être curieux. Mais ça reste des gens extrêmement curieux. Curieux, je pense à mon beau-frère. C'est un gars dans la mécanique. C'est un gars, il retape des chars, il a du fun. Mais c'est une des personnes les plus curieuses et cultivées parce qu'il aime apprendre, il aime savoir. Puis des fois, je trouve que... La façon dont les communications sont faites au gouvernement, ils prennent pour acquis que, bon, on est dans le Québécois moyen, ils voudront pas savoir, ça les intéresse pas, ils comprendront pas. Moi, je pense à tous ces gens-là autour de moi qui ont peu d'études et qui se sont peut-être même pas rendus à l'université, mais c'est des personnes extrêmement brillantes et curieuses qui veulent comprendre, qui seraient à l'écoute de ce genre de choses-là pour se politiser. Puis, tu sais, il y a quelqu'un dans mon entourage, dernièrement, qui me parlait qu'il a fait une rencontre d'une personnalité à la télé, OK, en politique. Puis, la personne, elle l'a adressé un projet qu'elle avait compris, qu'elle avait saisi puis qu'elle avait suivi. Puis le visage de la personnalité politique, ça a été très révélateur sur « Eh, mon Dieu, toi, dans ton type de personne, t'as été intéressé par ça, t'es au courant de ça. » Et moi, c'est un signal d'alarme parce qu'on va continuer de faire de la politique de cette manière-là. Puis après, on est en train de dire « Oui, mais de toute manière, si on avait expliqué ça, on avait pris du temps pour ça, vous nous auriez pas laissé... » Mais non, mais on commence à vous juger parce que vous restreignez une information qui est importante pour que la collectivité avance ensemble, soit capable de se faire une base électorale, une idée politique sur les vrais enjeux et probablement apporte de l'eau au moulin. Parce que moi, je veux dire, il y a de nombreuses questions que je pose à mon beau-frère qui m'éclairent. Puis j'ai plus d'années universitaires et d'études que lui, ça veut rien dire, ça. C'est, tout est dans la personnalité d'une personne, dans la curiosité de la personne, dans comment elle va aller s'instruire. Puis ça, je pense que, je sais pas si c'est ça qu'on analyse, là, politiquement parlant, de dire, ben il va falloir aller parler aux gens en région, comme c'était des handicapés des fois. Là. Puis tu sais, j'ai rien contre les personnes qui vivent avec un handicap, là. Je pense qu'on sait dans ma famille. Puis c'est juste que j'ai vraiment l'impression qu'on prend tout le temps les mauvais exemples, puis les gens que ça importe pas dans leur vie pour ensuite aller jaser ou pas. Aux citoyens.
Parce que je te posais la question, David, l'acceptabilité sociale, j'ai l'impression des fois que ça va selon le projet. Tu sais, Nordvolt, acceptabilité sociale ou non, on s'en est sacré, puis on a décidé de le faire.
De l'avant.
Souviens-toi, dans le dossier du tramway, il y avait le BAP qui ne recommandait pas le projet là, sous sa forme actuelle. On s'en est sacré comme si ça n'avait pas existé, le BAP. Tu sais, des fois, je me dis, à quoi ça sert le concept d'acceptabilité sociale si tu ne le suis pas tout le temps?
Mais je trouve que le niveau est plus élevé dans le privé que dans le public, ironiquement, parce que ultimement, le public, tu as tout le temps le levier de dire, bon, on va le faire pareil. Dans le privé, des fois, tu es vraiment bloqué parce que ton financement ne passera pas. Parce
exact.
Que t'as pas, bon, puis, tu sais, l'immobilier, tu n'as pas de zonage. Puis, quand tu vas faire de l'industriel comme ça, ben, tu n'as pas le permis de base. C'est bon.
Ouais.
Fait que je trouve qu'on le fait pas de la bonne façon parce qu'on se dit tout le temps, on fait le projet, on le présente, puis on va le faire passer. Puis, c'est pas comme ça qu'il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses avant. Tu le réfléchis avec le monde. Puis, quand tu le présentes, il n'y a pas de surprise. Puis après ça, tu sauves méga du temps et de l'argent. Puis ça, on dirait que tout le monde fait la même erreur. Tout le monde s'en fâche là-dedans. Puis ça finit que tu dis tout le temps, pourquoi tu l'as pas fait?
Pourquoi tu vois comme ça, toi? Tu as travaillé là, dans les corridors politiques. Là.
Ouais.
Pourquoi on est rendu là en 2024?
Bien, il y a beaucoup d'intérêt. T'sais, par exemple, les réseaux sociaux et tout ça, là, ça fait que tout le monde s'informe sur bien des affaires. Quoique là, il y a moins de nouvelles, ces réseaux sociaux. Mais je trouve que les gens sont plus curieux puis s'informent plus. Mais ils sont plus mobilisés aussi par rapport aux questions qui les entourent. Parce que sans juger cette génération-là, mettons des années 50-60, on faisait confiance au gouvernement. Ça s'en allait, c'est correct. T'sais. Puis là, il y a eu tous les mouvements sociaux. T'sais. Là, je ne veux pas faire un grand cours d'histoire, mais aux États-Unis, avec Nixon, puis là, le Watergate, puis là, la guerre du Vietnam, puis les mouvements sociaux, puis là, ça a fait comme ça a cassé quelque chose. Puis là, l'espèce de mouvement Peace and Love qui est devenu un peu cynique s'est prolongé dans le temps. Puis là, c'est de plus en plus vrai. Fait que finalement, tu peux plus vendre n'importe quoi, n'importe comment. Puis il faut que les gens comprennent, comme tu disais tantôt, le processus, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis après ça, tu vas désamorcer tellement de craintes puis de peur par rapport à ça que ça va se faire beaucoup plus facilement.
David Jabot, c'est un plaisir de t'accueillir sur les zones de Boulevard. On va se reparler dans les prochains jours. Un gros merci.
Merci.
Midi 51, on va faire une courte pause. Les choses à dire. 88-971-1021. 88-971-1021. On vient.
Marceau, le midi.